Alors, maintenir la croix au centre, c'était le petit titre que j'avais mis aussi dans le quad 9 pour l'étude biblique de ce soir, qui sera une étude plus thématique que sur un texte à proprement parler. Et puis, je ne pense pas que je finisse forcément l'étude ce soir. Bon, je la finirai la semaine prochaine, sans doute. Et du coup, on va avoir vraiment du temps pour partager. Et puis, on peut intervenir de façon interactive comme ça. Mais je voudrais commencer donc par dire maintenir la croix au centre. Au centre de quoi? Peut-être vous posez la question, parce que s'il y a un centre. Au centre de notre foi, tout simplement. Au centre de notre vie. Au centre de notre théologie, c'est-à-dire notre façon de penser aussi la foi. Et sans vouloir faire de jeu de mots, la croix, c'est crucial. D'ailleurs, le mot crucial, ça vient de croix. C'est vraiment crucial. Vous avez peut-être déjà lu ou regardé en dessin animé ou autre support l'histoire du voyage du pèlerin. Et dans le voyage du pèlerin, il y a un moment donné, il y a deux personnages, il y a formaliste et hypocrite. Donc bon, ils portent le nom de leur façon de voir les choses, qui finalement n'entrent pas aussi dans le royaume parce qu'ils ne sont pas passés par la porte de la repentance et de la foi. C'est pas nouveau. Je pense que tout au cours de l'histoire, beaucoup essayent de cheminer vers Dieu, de s'approcher de Dieu sans nécessairement passer par la croix de Jésus-Christ. Et la tentation est assez grande aujourd'hui de formuler l'évangile sans même en évoquer le cœur, ce qui fait vivre toute la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. La pression est assez forte en ce sens, y compris dans les instituts de théologie, les facultés de théologie, etc. Et même si on regarde, on se balade un petit peu sur Internet, vous tapez simplement « évangile » et vous regardez un petit peu les différentes définitions que vous avez. Dans beaucoup de présentations de l'évangile, la croix de Jésus-Christ n'est pas mentionnée comme étant centrale. Et des fois, elle n'est pas mentionnée du tout. Certains vont exprimer que la croix n'est pas adéquate pour régler les problèmes comme les guerres, les injustices, les oppressions, la pauvreté, etc. Et ils affirment que la croix n'est finalement pas si importante que cela face aux différents maux de notre monde. Erreur, puisqu'on sait très bien que à la croix, Jésus a tout accompli. Et que si aujourd'hui il y a encore des guerres, c'est parce qu'on est dans ce temps de la patience de Dieu, mais on sait qu'un jour il n'y en aura plus. Et c'est parce que Jésus a accompli aussi cette œuvre à la croix qu'il y aura ce royaume de justice et que ce royaume de justice sera habité aussi par les enfants de Dieu. Il ne sera pas vide. Et c'est la croix qui remplit, on pourrait dire, des personnes, des enfants de Dieu, ce royaume. Ce serait aussi une folie de penser que simplement avec une bonne volonté, on peut parvenir à changer le monde. Non, c'est Dieu qui a créé ce monde et qui va le changer puisque est venue la chute à un moment donné de l'histoire de ce monde. Et la croix, c'est même la seule solution qui répond à la racine du mal. Aucun être humain pourra jamais répondre et résoudre le problème du mal et du péché, ni de son propre cœur, ni de celui des autres. C'est à la croix que tout cela est accompli. Alors même dans le monde évangélique aujourd'hui, pas tous les évangéliques, mais certains sont tentés par redéfinir l'évangile et pour ne laisser qu'une place secondaire à la croix, en mettant en avant du coup d'autres points plus positifs, peut-être qui passent mieux aussi aujourd'hui lorsqu'on veut présenter l'évangile à quelqu'un. Par exemple, que finalement le projet de Dieu, c'est un projet de recréer un monde nouveau. Ben, c'est pas faux. Sauf qu'on peut le dire sans évoquer que ça passe par l'œuvre de Jésus à la croix. Ou alors, voilà, la promesse d'un royaume qui rétablira toutes choses, ou encore que finalement, en tant que chrétien, on est appelé à transformer la culture. Alors, c'était peut-être vrai il y a quelques dizaines d'années, où quand on se posait les questions de la fin du monde, il y avait ce qu'on appelait les post-millénaristes, qui disait finalement les chrétiens, conduits par Dieu, on va réussir à changer la société et finalement ce royaume de paix, de justice adviendra à travers l'œuvre des enfants de Dieu, bon aussi l'œuvre de Dieu, mais voilà. Et ce message-là pourrait laisser penser quelque part que la croix finalement est accessoire, hein, si finalement l'humanité peut y parvenir. Et si on présente l'évangile que dans ce sens-là, il y a un monde merveilleux qui vient, le royaume de Dieu où il rétablira toutes choses, sans dire que ça passe par la croix, voilà. Il me semble que voilà, on manque un élément quand même central. Hein. La croix, c'est un événement qui est raconté dans les quatre évangiles, et c'est même le point culminant des quatre évangiles. C'est le cœur autour duquel d'ailleurs toute l'histoire de l'humanité tourne. Alors, des fois, la croix n'est pas absente de ces théologies, mais marginalisée, son importance est relativisée. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, s'il y a quelque chose qui vous parle ou s'il y a une question qui vous vient, hein, n'hésitez pas. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le message qui consiste à dire que Jésus est Seigneur, seul, si je dis Jésus est Seigneur, seulement ça, ça n'est pas l'évangile. Dans l'évangile, vous savez que Jésus, il est Seigneur et Sauveur, ou alors dans l'autre sens, Sauveur et Seigneur, peu importe, mais c'est les deux. Alors oui, on a des versets bibliques pourraient nous laisser penser qu'il suffit de confesser Jésus comme le Seigneur, le Roi, le maître de la création qui va renouveler toute chose et qui va faire venir son royaume de justice. Par exemple, Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, il s'agit de confesser Jésus comme Seigneur. Ou dans 1 Corinthiens 12, mais bien sûr, vous allez comprendre, il ne faut pas juste prendre des versets comme ça isolés, et ça y est. Donc, c'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Voilà, on pourrait s'appuyer, si on s'appuyait uniquement sur ces deux versets, on pourrait dire, il suffit de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Ces versets ne mentionnent pas Jésus comme étant le Sauveur. Donc, on pourrait se dire, il faut simplement reconnaître Jésus qui est le roi, le roi du royaume qui vient. Mais, évidemment, on a plein d'autres versets qui parlent aussi de l'aspect que Jésus nous sauve. Et par exemple, en Actes 2, verset 36, c'est Pierre qui parle et qui dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, la seigneurie de Jésus associée dans la même phrase à son sacrifice à la croix, c'est le Seigneur Jésus crucifié, donc Jésus aussi le Sauveur. Si on ne dit pas en fait que Jésus est aussi le Sauveur, alors je ne sais même pas si c'est forcément réjouissant, parce que s'il n'y avait que l'aspect Jésus est Seigneur, eh bien, c'est aussi Jésus qui est le juge. Eh bien, donc, il nous juge. Et comment il pourrait nous sauver, hein, s'il n'était que Seigneur? Vous connaissez ce verset qui dit que tous les genoux plieront devant Jésus-Christ et reconnaîtront qu'il est Seigneur. Mais reconnaître à ce moment-là que Jésus est Seigneur ne signifie pas que tous reconnaîtront que Jésus est leur Sauveur. Tous reconnaîtront que Jésus est le Seigneur, mais pas qu'il est forcément le Sauveur. Tous ne seront pas sauvés. Alors, après, il y en a qui vont affirmer que tous seront sauvés et qui, du coup, vont prendre ces affirmations. Il suffit de reconnaître, voilà, à un moment donné, tout le monde pliera le genou devant Jésus, donc tout le monde confessera qu'il est Seigneur, donc tout le monde sera sauvé. Mais je pense que c'est important de faire quand même la nuance, la distinction entre les deux. L'évangile consiste à dire que Jésus est Sauveur et Seigneur. Ou dans l'autre sens, si on veut. Parce qu'il est peut-être d'abord Seigneur avant d'être Sauveur quand même. Puisqu'il est Dieu. Avant de s'incarner. Et d'accomplir le salut. La deuxième chose, c'est que l'évangile, ce n'est pas qu'une théorie. Et ce n'est pas qu'un message théorique. Alors des fois, on aime bien résumer l'évangile, et c'est bien pratique, avec une petite formule que vous avez sans doute déjà entendue. Création, chute, rédemption, accomplissement final. Vous avez déjà entendu ce schéma théologique, et je pense, quelque part, il résume assez bien la révélation biblique. Mais j'ai envie de dire, si on se contente de ça, eh bien, ce n'est pas l'évangile non plus. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait, du coup, construire tout un discours avec tous ces éléments parfaitement justes, sans pour autant avoir dit comment Dieu accomplit tout ça. Je vous donne un exemple que j'ai noté là. Donc c'est, voilà, on pourrait dire, voilà, l'évangile est la nouvelle selon laquelle Dieu, au commencement, a créé le monde et tout ce qu'il contient. À l'origine, le monde était très bon, mais les hommes se sont révoltés contre le règne de Dieu, ce qui a provoqué un véritable chaos. La relation unissant l'homme à Dieu, à ses semblables, à sa conscience et au monde s'est brisée. Cependant, après la chute, Dieu a promis d'envoyer un roi qui se rachèterait un peuple et réconcilierait toute la création avec son Dieu. Cette promesse, qui a commencé à se réaliser avec la première venue de Jésus-Christ, ne s'accomplira entièrement qu'à son retour. Bon, rien n'est faux. Mais il manque quelque chose, parce que cette définition de l'évangile ne dit pas comment Dieu accomplit-il cela. C'est par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et comment en bénéficier? Comment faire partie de ce projet de Dieu? À savoir par la repentance et la foi. Donc je pense que dans la présentation de l'évangile, et je pense que c'est peut-être utile, voilà, de le rappeler de temps en temps. Je ne vais pas m'attraquer ça tous les jours non plus. Mais voilà, se rappeler comment Dieu réalise son plan. Et le théologien Michael Green, dans un livre sur justement l'évangélisation, dit qu'on n'a pas dit tout l'évangile tant qu'on n'a pas invité les personnes même à répondre par la repentance et la foi au message de la croix. Autrement dit, l'appel aussi à la conversion, dire comment se tourner vers Dieu par la repentance et la foi, fait partie du message de l'évangile. Et ce n'est pas la partie la plus facile, parce que ben, du coup, il y a quelque chose de personnel, il y a une démarche personnelle, il y a un pas, on pourrait avoir l'impression que c'est un pas dans le vide. Hein, il faut faire confiance, il faut se repentir. Ah ben oui, donc il faut aussi reconnaître qu'on est mauvais. Parce que la définition que j'ai donnée avant de l'évangile, on peut dire, bah, très très bien. Mais donc j'ai rien à changer, c'est super. Et puis je vais entrer dans le projet de Dieu comme ça. Sans passer par la croix. Autre chose aussi qui n'est pas l'évangile, c'est la transformation de la culture. Alors, bien sûr, s'opposer au mal, c'est quelque chose de biblique. Hein. On a plein de versets qui disent cela. Mais il y a peut-être une tentation. Alors, la tentation, elle est là quand les évangéliques, peut-être dans un pays donné, commencent à être un peu nombreux, en se disant, tiens, est-ce que notre projet ne serait pas de changer le monde ou de transformer la société? Alors, ça n'est pas un appel biblique. Dieu n'a pas dit qu'on est sauvé. Alors oui, on est sauvé pour pratiquer des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, mais il n'est pas précisé que ces œuvres, une fois accomplies, transformeront la société, rendront la société plus juste, etc. Certains livres, pas tous, qui parlent de la mission, c'est à la mode, de parler de la mission de Dieu dans le monde, du fait qu'on participe à cette mission, sont un tout petit peu, des fois, je pèse mes mots, déséquilibrés sur cette question, où on a l'impression que finalement, un des buts, c'est quand même d'arriver à transformer des choses dans la société. Alors que ce n'est pas le premier appel bibliquement, on est appelé à être sel et lumière là où Dieu nous a placés. Cela aura peut-être pour conséquence des changements dans notre entourage, mais notre appel n'est pas de changer la culture. Même si une culture doit changer par l'action des chrétiens, ce n'était pas leur appel à la base. Le royaume de Dieu vient et nos actes sont des signes du royaume de Dieu qui vient et n'en sont pas les causes. Alors oui, je le disais, donc certains ouvrages qui abordent la question de la mission mettent l'accent sur la transformation culturelle plus que sur la croix. Il faut se joindre à l'équipe de Dieu plutôt que, donc on est co-ouvrier dans son œuvre, etc. Tout ce genre de discussion, on doit entrer dans la mission de Dieu plutôt que de se repentir et croire en Jésus. Oui.
La culture judéo-chrétienne a comme été un progrès dans notre société, mais n'a pas fait de notre société des chrétiens.
Oui, tout à fait.
Les valeurs chrétiennes ont certainement changé notre société, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est devenu chrétien.
Oui, oui, alors tout à fait. Les actions chrétiennes, tu mentionnes qu'elles ont eu un impact et que quelque part, elles ont changé la société. Alors ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas notre appel. Hein. Je ne vois pas forcément... être sel et lumière, c'est autre chose que changer une société. On pourrait d'ailleurs tomber dans un discours qui serait du coup plus moraliste qu'un discours de grâce, hein, si finalement il faut entrer, comme je le disais un petit peu avant, dans l'équipe de Dieu, plutôt que de se repentir et de croire en Jésus. La notion de grâce, etc., n'est pas tellement mise en avant dans cette présentation des choses, c'est plus l'action qui pourrait être du coup aussi un activisme ou une forme de morale aussi chrétienne dans laquelle la croix n'a plus sa place. Billy Graham disait que si on voulait voir de vraies transformations dans nos sociétés, il fallait prêcher l'évangile de la croix. Les personnes touchées par ce message et qui y répondront par la repentance et la foi verront leur vie transformée et cela pourra avoir un impact localement. Et il y a de belles histoires comme ça, hein, où des personnes, lorsqu'elles se sont tournées vers le Seigneur Jésus, ont changé des choses autour d'elles. Hein, effectivement, sont à la base de certaines œuvres qui encore aujourd'hui ont un impact, ou même, pourquoi pas, la transformation d'un pays. Je discutais avec Elisabeth l'autre jour, je dis on sait jamais après le culte, on sait jamais, peut-être pourrait y avoir un mouvement de paix qui se lève entre Israël et la Palestine, et des fois qu'une poignée de personnes résolues par exemple à manifester de façon pacifique pourrait avoir un impact dans des situations comme, par exemple, Martin Luther King ou d'autres. Mais le message de la croix reste encore aujourd'hui, au XXIe siècle, peut-être même encore plus qu'à l'époque, je n'en sais rien, une pierre d'achoppement et une folie. Et ça fait partie même du message biblique de dire que la croix n'est pas facilement acceptable. Aujourd'hui, si on dit que on doit notre salut à un homme qui a été crucifié il y a 2000 ans, on va passer pour déraisonnable voire fou, aux yeux de nos contemporains. Le jour où on est amené à témoigner que c'est ce qu'on croit et que c'est ça qui est au cœur de notre foi, après il y a des tas d'autres choses dans notre foi, mais que ça c'est un point quand même central, eh bien on peut effectivement passer pour un déséquilibré. Alors on pourrait être tenté, du coup, de présenter l'évangile d'une autre façon qui met la croix de côté, et même peut-être sans en parler du tout. Mais ce problème n'est pas nouveau, puisque déjà à l'époque de Paul, hein, la croix n'était pas un message facile à prêcher, que ce soit parmi les juifs ou les païens. Et là, je vous lis quelques extraits, très courts extraits d'un Corinthien, hein, 1 Corinthiens 1 notamment, où Paul dit « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs. » 1 Corinthiens 2, verset 2 « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, il met en avant, Paul, cela, dans son épître, et puis encore plus loin, 1 Corinthiens 15, verset 3, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » Alors là, Paul est en train de dire aux Corinthiens, voilà le centre de l'évangile que je vous prêche, c'est que Christ est mort pour vos péchés. Et il a conscience que c'est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs, mais il va dire que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Il le dit juste après. Alors voilà, ça c'était pour dire, voilà, pour redire, ne faisons pas dans notre vie, dans notre témoignage aussi, dans notre théologie, l'économie de la croix. On a besoin peut-être d'y revenir encore plus souvent. Si on fait l'économie de la croix, peut-être qu'on perd tout, toute la foi. Alors bien sûr, après avoir dit cela, mais c'est quoi la croix? C'est quoi le sens de la croix? Qu'est-ce qui se passe à la croix? Alors pour la plupart des chrétiens évangéliques, Jésus est mort à notre place pour nous sauver de la juste colère de Dieu. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette courte phrase-là. On pourrait dire que ça, c'est, on va dire, la position, je ne sais pas s'il faut dire traditionnelle. Tous ceux qui se revendiquent chrétiens ne seraient pas forcément d'accord avec ça, hein, avec ce sens de la croix et de la mort de Jésus-Christ. Il y a plusieurs manières de comprendre la croix qui ont été proposées, qui d'ailleurs, certaines sont complémentaires l'une avec l'autre, mais d'autres peut-être, justement, sont incompatibles, en fait. Alors, au cours de l'histoire, pour Origène, par exemple, la croix, c'était une rançon, effectivement, qui est payée, mais qui était payée au diable pour sauver quelques personnes. Pour Irénée, c'était, alors, théologie que à la croix, finalement, Jésus vivait pleinement de l'humanité, et donc il sanctifiait même la mort, quelque part, en passant par la mort. Il récapitulait une vie humaine. Toutes nos vies pouvaient être donc rachetées dans ce sens-là, parce que Jésus avait tout racheté. Pour certains, la croix, c'est un exemple de foi et d'obéissance. C'est donc le Fils qui obéit au Père jusqu'à la croix. Exemple donc de foi, d'obéissance. Donc ça, c'est des auteurs comme Pélage, par exemple, Abélard aussi. Pour Anselme de Canterbury, Oh, je ne sais pas, Canterbury, je ne sais pas comment on dit. C'était le paiement d'une dette, mais pas au diable, mais une dette à Dieu. Pour Luther et Calvin, alors eux, ils utilisent carrément l'expression vient de la réforme, l'expression substitution pénale. On verra tout à l'heure, dans un instant, ce qu'on entend par là. Pour les pères de l'Église, c'était plutôt le thème d'une victoire sur le mal. Christ, en ressuscitant, a vaincu le mal. Et puis, dans la pensée plus libérale, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Bon, très schématiquement, évidemment, hein, parce que c'est plus subtil que ça, mais voyez un petit peu les différentes façons de donner un sens à la croix. Alors, lesquelles sont bibliques, il y en a plusieurs qui sont bibliques dans ce que j'ai dit là, et qui se complètent. Et par contre, il y en a qui sont peut-être incompatibles entre elles. Toutes ne se valent pas non plus, il me semble, à la lumière de la Bible. Et je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps maintenant sur ce qu'on appelle la substitution pénale. Alors, vous avez peut-être déjà eu des études bibliques là-dessus, des enseignements là-dessus. C'est quoi ce gros mot? Vous avez déjà entendu ça? La substitution pénale? Ça vous dit quelque chose? Oui?
Juste la point que tu avais dit avant, que dans l'évangélisation, il ne faut pas qu'on oublie la croix et puis qu'on peut, entre guillemets, édulcorer l'évangile ou montrer des aspects de l'évangile qui sont pas la croix, qui ne sont pas le cœur. Alors, je n'ai pas la réponse à la question, mais. Quand on n'est déjà pas super à l'aise avec l'évangélisation, est-ce qu'on ne va pas rebuter les gens et puis du coup fermer complètement la porte? Et est-ce que ce n'est pas juste d'utiliser justement les aspects positifs de l'évangile qui sont compréhensibles aujourd'hui pour essayer de donner envie aux gens d'en savoir plus après quoi? Enfin, c'est une question, une grande question. Hein.
Oui, alors je pense que tu as raison. On ne va peut-être pas commencer par ce qui va rebuter le plus. Ouais. Parce que sinon, ça va être comme Paul à l'aéropage, on va dire on t'entendra une autre fois là-dessus, et puis finalement il n'y a pas eu d'autre fois, disons.
Mais après, ce que tu nous as dit, c'est super important. Donc,
c'est ça, c'est-à-dire que.
Est-ce qu'il faut qu'on se mette en question sur ce point-là ou pas?
Je pense que il faut avoir conscience qu'on n'a pas tout dit.
Ouais.
Voilà. Tant qu'on ne l'a pas dit. Mais ne pas commencer par dire voilà, la croix nous appelle à la repentance, et sinon nos péchés ne seront pas pardonnés, etc. Là, je pense que si on commence comme ça, non. Mais par contre, avoir conscience que, qu'à un moment donné, on n'a pas dit tout l'évangile. On peut avoir dit une partie de l'évangile, mais pas tout l'évangile si on n'a pas parlé de ce qui se passe à la croix pour nous. Hein.
C'était dans le. On a peur de scandaliser notre interlocuteur en parlant de la croix.
Oui. Ouais. Alors oui. Alors je sais pas en fait quelle présentation de l'évangile passerait le mieux aussi aujourd'hui.
Et justement, est-ce qu'il faut que l'évangile passe ou est-ce qu'il faut dire l'évangile tel qu'il est?
Alors je pense qu'il y a quand même vraiment, il y a la forme. Hein. Il y avait un grand prédicateur au XIXe siècle qui prêchait d'une certaine façon, les gens se convertissaient, mais aujourd'hui on ferait la même chose. Plus personne disait, vous ne voyez pas là les flammes de l'enfer qui sont sous vos pieds, etc. Je crois que c'était le prédicateur Edwards qui prêchait comme ça. Puis les gens, ça portait du fruit, hein, c'est-à-dire que, mais ils se convertissaient par peur. D'une punition de Dieu. Et voilà, après, bon, est-ce qu'ils, peut-être plus tard dans leur vie chrétienne, ils comprenaient la grâce. On peut présenter l'évangile en disant que c'est une liberté aussi, que Dieu veut nous libérer de quelque chose. Ça, c'est une façon, à mon avis, qui est assez positive de présenter l'évangile. Mais du coup, on est obligé de parler de l'esclavage. Parce que si Dieu nous libère, il nous libère de quoi? D'un esclavage. Et c'est l'esclavage de quoi? C'est l'esclavage du péché. Mais c'est positif, parce que Dieu nous en libère, veut nous en libérer. Et il nous en libère comment? Par le pardon, accompli à la croix. Si on dit simplement, voilà, Dieu veut que tu vives une vie libre, etc., ben on a dit une partie. Il faut peut-être dire de, voilà, par rapport à quel esclavage, etc. Et là, on est obligé un peu d'aller plus loin, quoi. Mais oui, ne commençons pas nécessairement à tout de suite parler du péché, de la culpabilité, parce que ça peut vraiment bloquer. Moi, j'ai un témoignage comme ça. J'étais avec un ami dans une voiture, et puis au volant, il y avait un conducteur devant lui qui râlait après l'autre, qui était juste à côté, etc. Et puis alors, il disait, ah, ça c'est le... Je ne sais pas, je sais plus exactement ce qu'il a dit. Il a dit, oui, ça c'est la rage au volant, ou comme on dit aujourd'hui. Et moi, bon, j'étais dans mes études de théologie, là, et puis je lui ai dit, oh, ça c'est le péché. Il n'était pas chrétien, cet ami. Mais il m'a plus... Disons, ça a coupé la discussion, quoi. En fait, c'était pas forcément faux ce que j'ai dit, mais c'était plutôt maladroit. Je voulais dire, ouais, bon, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais et qui s'exprime comme ça, et la solution c'est Jésus. Mais c'était déjà peut-être pas le moment d'évangéliser, je sais pas. Mais le mot a bloqué aussi, le mot péché a aussi immédiatement bloqué. Certains n'ont pas en tête que le péché c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est contre Dieu, c'est ce qui relève de la désobéissance à la loi de Dieu, etc. Donc le péché pour certains c'est même peut-être plus tellement aujourd'hui, mais pour certains il y a quelques dizaines d'années, le péché c'était la sexualité, par exemple. Alors quel est le rapport entre les gens qui s'énervent au volant et voilà, on ne sait pas ce que les gens mettent derrière ce mot, et donc ça peut vraiment bloquer, hein. Bon, je lui ai quand même reparlé, il m'en a pas voulu, hein, et puis on se connaît depuis la fac de maths à Mulhouse, là, donc. Donc qu'est-ce qui se passe à la croix? Une façon donc de décrire la croix, c'est de dire que Jésus-Christ est mort à notre place, comme dans le cantique qu'on a chanté. Wayne Grudem, qui a écrit donc une théologie... une théologie systématique, écrit « Christ, par sa mort, a payé la juste sanction pénale de Dieu pour nos péchés, se substituant à nous dans sa mort. » Un autre théologien, Michael Kruger, dit « La doctrine dite de la substitution pénale consiste dans l'affirmation qu'en mourant, Christ a pris sur lui les péchés et a été puni à la place des pécheurs. Ainsi, il satisfait aux exigences de la justice de Dieu, qui peut alors pardonner tout en étant juste. » Un peu complexe. Oui, c'est ça. Il y a deux mots, hein, substitution pénale. Pénale, ça renvoie à la notion de peine, de punition, si on veut, de sanction. Et la substitution, c'est à la place de. Donc il y a quelqu'un qui prend une peine, une punition, une sanction à la place de quelqu'un d'autre. Alors est-ce que c'est biblique de présenter la croix comme ça? Il y a quelques... Oui, c'est biblique. Il y a plusieurs textes. Il y a un jour, c'est quelqu'un qui ne fréquente pas l'église, mais qui était là une fois à un culte, et quand j'ai présenté la scène, j'ai dit, moi, de façon assez naturelle, que Jésus était mort à notre place. Et cette personne voulait contester, en fait, ce point, et voulait le contester, Bible à l'appui. On a eu un petit dialogue par mail, et il essayait de me dire que l'idée que Jésus-Christ était mort à notre place n'était pas biblique. Que Jésus-Christ était mort pour nous, en faveur de nous, pour nous apporter un bienfait, pour nous apporter une bénédiction de la part de Dieu, qui pouvait être le pardon, mais Jésus n'était pas mort à notre place. Alors, je pense que on peut montrer que la substitution pénale est biblique. Et j'ai quelques versets maintenant qu'on va pouvoir lire. Alors, Il y a déjà le chapitre qu'on appelle l'évangile de l'Ancien Testament, Ésaïe 53. À mon avis, cette idée de quelqu'un qui meurt à la place de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes est très présente dans ce texte, et on aurait du mal à comprendre ce texte sans ça. Alors je vous lis juste quelques versets choisis d'Ésaïe 53, donc 4 à 6, 10 et 11. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Je pense au moins 3-4 fois, on a cette idée que Jésus, dont il est question dans ce passage prophétique, porte les péchés, se charge des péchés, que l'iniquité est retombée sur lui, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, que c'est par ses meurtrissures, etc. Je trouve que, bon, à moins de vraiment faire exprès d'y voir autre chose, c'est au moins cohérent avec la substitution pénale. Autre passage, Romains 3, versets 23-26. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc là, c'était l'idée que Jésus, par son sang, par sa mort, devient une victime propitiatoire. Cette idée. Alors, peut-être dans certaines traductions, vous avez expiatoire. Non, mais il y a un petit débat. Alors, le mot, c'est propitiatoire. Il y en a qui disent que là, même si on a le mot propitiatoire, ça renverrait plutôt à l'expiation. Bon, j'entre pas dans. En fait, il y a peut-être même. Si on regarde en fait en grec ce verset, c'est que Dieu l'a destiné à être, pour ceux qui croiraient, propitiatoire. Et pas, il n'y a pas le mot victime. Et le propitiatoire, c'était l'endroit dans l'Ancienne Alliance où le sang était répandu. Il y avait un sur l'autel, quoi. Peut-être que derrière ça, Paul, justement, fait une figure de style. Il dit, c'est Jésus, ce propitiatoire. Voilà. Et donc, c'était l'expiation qui était réalisée, donc ce serait plutôt expiatoire. Bon, ça dépend des traductions donc, de la Bible qu'on prend. Mais en tout cas, on a cette idée-là, qu'il y a quelqu'un qui paye à la place de quelqu'un d'autre. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir sacrifice pour le péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dans certaines traductions, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La traduction, il l'a fait devenir sacrifice pour le péché, pour nous, me semble plus juste. Et ça vient d'une... Bon, dans le texte, il y a uniquement le mot péché, mais ce mot péché, en tout cas en hébreu, renvoie à la fois pour des fautes. Il y a plusieurs mots d'ailleurs pour dire le péché en hébreu. Il y a Hacham par exemple, il y a Hata, il y en a d'autres. Quand on regarde dans le livre du Lévitique, les sacrifices qu'il faut faire pour les péchés, le nom du sacrifice porte le nom du péché. Pour le péché Hacham, par exemple, il va falloir faire le sacrifice Hacham, Donc le sacrifice pour le péché s'appelle le péché, en fait. Et donc peut-être que c'est avec cette arrière-pensée de l'Ancien Testament que Paul a écrit que Jésus est devenu péché. L'œuvre d'ailleurs du serviteur de l'Éternel en Ésaïe 53, c'est le péché. Mais il faut comprendre le sacrifice pour le péché. Hein. C'est pas... L'œuvre du Sauveur n'est évidemment pas de péché, mais d'être un sacrifice pour le péché. Donc voilà, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir sacrifice pour le péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il prend la place des pécheurs. Galates 3, versets 10 et 13, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. » Là aussi, Jésus qui prend une malédiction sur lui. Et il nous rachète, du coup, de la malédiction de la loi. 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est une allusion à Ésaïe 53 par l'apôtre Pierre. Et un chapitre plus loin, 1 Pierre 3, 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Donc, lui a souffert, lui le juste, pour des injustes. Alors, comment comprendre ce « pour » Je vais dire dans un instant que le mot « pour », alors oui, il veut dire « pour », il veut dire « en faveur d'eux », mais dans certains contextes, il peut revêtir une notion substitutive, c'est-à-dire à la place de. Lui, juste, à la place des injustes, mais je vais le justifier après. Et alors, de façon plus globale, on pourrait aussi penser à toute l'Épître aux Hébreux, qui finalement montre que Jésus-Christ est à la fois le grand prêtre, et à la fois la victime du sacrifice qu'il offre lui-même. Et que, voilà, comme dans l'Ancien Testament, le système sacrificiel où il y avait des animaux qui étaient tués pour le pardon des péchés. Au-delà des textes, de ces textes, et peut-être j'en ai pas fait non plus la liste exhaustive, on a l'idée de substitution qui est présente dans la Bible, à plusieurs endroits. Par exemple, en Genèse 22, quand Abraham veut sacrifier son fils, Isaac, et bien tout d'un coup, il est arrêté dans son geste, et c'est un bélier qui prend la place d'Isaac. Bon, ça ne nous dit pas le sens de la croix directement, mais cette notion de substitution qui est là. Tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est un animal mourait pour effacer le péché. Et puis il y a toute une série de lois aussi où Dieu rachète. Alors c'est dans Nombre 3. C'est assez... C'est pas un passage qu'on lit tous les jours. J'essaie juste de retrouver. Voilà, le rachat des premiers-nés, par exemple. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Ils ont cette idée de prendre la place d'eux. Elle est présente dans certaines lois aussi. Il y a aussi toutes les lois qui concernaient ce qu'on appelle des fois le parent rédempteur, le goël en hébreu, qui avait droit de rachat, etc. On en parle des fois quand on a l'histoire de Ruth. Qui avait le droit de prendre Ruth pour femme, etc. Voilà. Au niveau des mots que la Bible utilise, lorsqu'on dit que Jésus est mort pour nous, on a certains textes où clairement on a la préposition en grec « anti », c'est-à-dire « à la place de ». Par exemple, en Matthieu 20, verset 28, que je vous lis maintenant, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, à la place de beaucoup. » Bien sûr, on peut le traduire « pour », mais là, c'est clairement « à la place de », la préposition « anti ». Je crois qu'on a la même chose dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, je crois que c'est le même verset, je vérifie. Oui, en effet, voilà, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, donc à la place de beaucoup. Et on a 1 Timothée aussi, 2, verset 6, qui s'est donné, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Donc pour, c'est aussi à la place de dans ces textes. Assez clairement, on a cette préposition qui signifie à la place de. Dans d'autres textes, on a une autre préposition qui est la préposition pour, en faveur de, hein, c'est huper. Mais, même, comme je le disais avant, dans certains cas, par exemple, Jésus est mort, lui, juste pour des injustes. Là, on n'a pas le anti, on aurait peut-être aimé que ce soit hyper clair. Mais on a le huper pour, et alors, mais même le mot pour, il peut sous-entendre un sens substitutif. Alors, par exemple, un passage dans lequel c'est plus clair, Jean 11, versets 50 à 52, hein, « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple. » Alors, est-ce que c'est en faveur du peuple ? Non. Pourquoi un homme, la mort d'un homme serait en faveur du peuple ? Non. Il vaut mieux qu'un homme meure à la place de toute une révolution et d'un bain de sang et d'une, voilà, d'un renversement de l'ordre établi, parce que c'est aussi ce qu'ils craignaient. Hein. Donc là, on a la préposition pour, mais derrière, il y a clairement un sens substitutif. Disons, je ne vois pas comment on pourrait sinon le comprendre. Et dans 1 Pierre 3, 18, comme je le disais aussi, Jésus, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes. Là aussi, on peut y voir derrière clairement un sens substitutif. Et un autre passage où c'est très clair que huper a un sens substitutif, mais ça n'a rien à voir avec la croix, c'est dans Philémon, verset 13. « J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. » Littéralement, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve pour toi pendant que je suis en prison pour l'Évangile. C'est bien à ta place, hein, le pour toi ici. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que oui, la doctrine de la substitution pénale est biblique. Elle est présente dans des textes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe 53, des textes du Nouveau Testament qui parlent de l'Évangile. Et l'idée de substitution est même là, est en filigrane dans beaucoup d'autres textes, et que même au niveau du vocabulaire, on a cette idée de « à la place de », et si ce n'est pas la préposition « anti », on l'a dans le sens, on va dire, assez évident dans certains textes. la doctrine de la croix, en fait, est au centre de notre foi chrétienne. Et si on y touche à cette doctrine, eh bien, on va toucher, du coup, à ce fondement de notre foi, à ce cœur de notre foi. Sans la mort substitutive de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés, eh bien, on serait encore sous la colère de Dieu. Puisque qui aurait porté nos péchés? Comprendre ce qui se joue à la croix, c'est comprendre du coup l'évangile, c'est comprendre la puissance de Dieu aussi qui nous libère pour aujourd'hui. Et c'est aussi mieux proclamer sans doute l'évangile à un monde qui est perdu, à ceux qui entendent l'évangile, pour qu'ils croient et soient eux aussi sauvés de la colère juste et sainte de Dieu. Alors j'ai conscience, voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai de loin pas tout dit. La prochaine fois, on va voir, eh bien, justement, que à la doctrine de la substitution pénale, il y a un certain nombre d'opposants, avec des arguments qui sont assez forts quand même. Et donc, on travaillera la prochaine fois pour tenter de répondre à ce qu'on pourrait opposer à cette doctrine. Quel est le problème? Elle a du mal à passer, cette doctrine, aujourd'hui, parce qu'elle nous parle d'une justice qu'on n'aimerait pas punitive. Ça nous dérange. Et puis après, cette question est reliée à énormément d'autres questions quant à l'étendue du salut. Donc indirectement à la question aussi de l'élection ou de l'universalisme, ou de l'universalisme hypothétique, et puis du coup, indirectement, lié aussi à la doctrine d'un châtiment éternel ou très long, et puis après ça s'arrête, etc. Donc on n'aura pas le temps, même la prochaine fois, évidemment, hein, de voir toutes ces questions, mais c'est pour dire qu'il y a des ramifications sur un certain nombre de questions, et j'espère que cette année, j'aurai l'occasion de vous présenter c'est pas ma position personnelle, mais la position de certains évangéliques par rapport à justement l'universalisme. Aux États-Unis, il y a des évangéliques universalistes. Alors moi, j'ai toujours cru que pour être universaliste, il fallait être libéral. En fait, il fallait mettre de côté la Bible et puis finalement construire une théologie sur la base de nos propres envies. Et comme on aimerait que tout le monde soit sauvé, bon ben, on construit un Dieu qui est capable de faire ça tout en étant juste et amour. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas aussi simple que ça. Et il y a donc tout un mouvement d'évangéliques universalistes aux États-Unis. Et peut-être une jeudi soir, on en parlera, je vous expliquerai un peu comment ils lisent justement la Bible pour en arriver à ça. Parce que bon, dans quelques années, il va y avoir des ouvrages en français aussi là-dessus. Et moi, je pense qu'on ne perd rien à défendre la position traditionnelle sur cette question. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, on fait la suite.